Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je vous remercie d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Libre à vous, l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Alors, la radio dispose d'un web chat. Utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous cliquez sur chat et vous pouvez nous retrouver sur le salon web dédié à l'émission. Nous sommes mardi 3 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise aussi que la radio dispose d'une application Cause Commune. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, la troisième saison. Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles. Les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis, vraiment enchantés de vous retrouver. Et si vous découvrez l'émission avec cette saison 3, nous espérons que vous l'apprécierez. Vous pouvez retrouver les podcasts des émissions passées sur le site de la radio, causecommune.fm, et sur le site de l'April, april.org. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons commencer par le programme de l'émission. Nous commencerons par des annonces de rentrée, avec notamment des nouveautés concernant cette nouvelle saison de Libre à vous, et par la première chronique de Luc, qui sera intitulée La pituite de Luc. Un peu de mystère. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal, et nous avons l'honneur de recevoir la Gendarmerie nationale, l'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le logiciel libre, de la bureautique au système d'exploitation. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick.
Bonjour tout le monde et bonne émission.
Merci Patrick. Alors comme à chaque émission, nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au cours de l'émission. Vous pouvez nous proposer les réponses sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm ou via les réseaux sociaux. Alors, première question. Quel projet libre a fêté ses 15 ans cet été, plus particulièrement le 10 août? Et on a déjà parlé de ce projet dans Libre à vous. Deuxième question, quel est le nom de la version d'Ubuntu adaptée pour être utilisée par la Gendarmerie nationale française? Évidemment, tout à l'heure, notre intervenant vous donnera la réponse dans la discussion. Place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par des annonces de rentrée concernant la nouvelle saison de Libre à vous, et ensuite par la première chronique de Luc, intitulée La pituite de Luc. Alors d'abord, on va commencer par accueillir les personnes qui découvrent l'émission, parce que c'est une nouvelle saison, donc forcément nous avons de nouvelles personnes qui nous écoutent. On va vous rappeler le concept. L'April est l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre, et depuis mai 2018, nous animons une émission d'explication et d'échange sur la radio Cause Commune, sur les thèmes des libertés informatiques. Alors, Libre à vous se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les dossiers juridiques et politiques que nous traitons, et également sur les actions que nous menons. Alors, pour les libertés informatiques en général, et plus particulièrement, évidemment, pour le logiciel libre. Libre à vous, c'est aussi un point sur les actualités du libre, des personnes invitées au profil varié, évidemment de la musique sous licence libre, et des actions de sensibilisation. Donner à chacun et chacune de manière simple et accessible les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action, tel est l'objectif de cette émission hebdomadaire. L'émission est en effet diffusée chaque mardi en direct de 15h30 à 17h sur la radio Cause Commune, donc sur les ondes de la radio 93.1 FM en Ile-de-France et partout sur le monde sur causecommune.fm. Les podcasts sont disponibles sur le site de la radio ensuite et également sur le site de l'April. Et il y a également des transcriptions qui sont disponibles généralement une semaine après les podcasts. Donc si vous avez manqué les deux premières éditions, les deux premières saisons, ou si vous avez envie de réécouter des podcasts, sachez que les podcasts des deux premières saisons donc, sont à votre disposition. Une trentaine d'émissions que nous avons également découpées en plusieurs sujets disponibles individuellement. Donc chacun des sujets pouvant varier de 10 minutes à peu près une heure. Enfin une heure, je crois que c'est même le maximum. Alors la radio, c'est avant tout des voix, évidemment. Mais peut-être aimeriez-vous explorer les coulisses de notre émission Libre à vous, et même de la radio Cause Commune, voir par exemple ce qu'est en train de faire Patrick actuellement à régie. Nous avons mis en ligne sur le site de l'April, donc april.org, une première bande-annonce qui dure 38 secondes pour vous montrer des images, des visages. Alors, nous vous proposerons sans doute la semaine prochaine ou un peu plus tard peut-être une version un peu plus longue. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de l'April et découvrir un petit peu les coulisses de l'émission dans une petite vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à l'envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Alors, je rappelle également que la radio dispose d'un web chat. Donc, sur le site causecommune.fm, vous pouvez cliquer sur chat. Et actuellement, il y a des gens qui nous ont rejoints. Alors, je regarde un petit peu. Nous avons des petits coucous de personnes. Il y a notamment... Je rigole parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui le pseudo est fan de Fred et qui dit « ça fait plaisir d'entendre ta voix après tout ce temps ». Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, merci. L'ONU GM était également présent, Marie-Odile, Olicat, ma cousine. Donc bienvenue à toutes et tous sur le Salon Web. Alors cette saison 3 est l'occasion d'initier de nouveaux rendez-vous réguliers. Et notamment, livre à vous. J'ai bien dit « livre à vous ». Donc des échanges avec des personnes ayant écrit des livres en lien avec nos sujets sur le format suivant. Une interview dans l'émission « Libre à vous », puis... normalement le même soir, le même jour, donc le mardi soir, une rencontre dédicace à la librairie à livres ouverts qui est située à Paris dans le 11e arrondissement. Alors bien sûr, nous encourageons les libraires des autres régions à inviter ces personnes que nous inviterons dans l'émission et si besoin, nous ferons la mise en relation. Deuxième nouveauté, des chroniques courtes. Alors vous connaissez l'équipe des chroniques de l'April où 10-15 minutes environ, tout à l'heure il y aura Xavier Berne, mais là on initie un nouveau sujet avec des chroniques courtes, 3 minutes maximum au format billet d'humeur, pastille. En gros, une lecture libre, décalée, voire humoristique de l'actualité. Et en effet, lors de la dernière émission de la saison 2, nous avions lancé un appel à candidature donc pour rejoindre l'équipe des personnes qui font des chroniques dans l'émission. Pour justement avoir ces chroniques courtes, nous avons reçu des propositions et donc nous allons avoir le plaisir d'écouter la première chronique avec notre donc premier invité. Alors, normalement, est avec moi au téléphone Luc. Bonjour Luc.
Salut Fred, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends, oui. Et merci pour l'accueil. Alors, évidemment, Luc, je précise que c'est Luc avec un K. Avant de t'écouter ta chronique, plusieurs questions quand même, vu que tu rejoins l'équipe. Déjà, nous aurions aimé avoir avec nous ta présence au studio. Donc, pourquoi ne peux-tu pas être présent ? Excuse-moi. Et seconde question, pourquoi uniquement ce surnom de Luc ? Donc, je répète, avec un K.
Déjà, j'aurais effectivement préféré être présent avec vous physiquement. C'est toujours beaucoup plus sympa, mais voilà, je bosse. Hein. Puis j'ai changé de boulot il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu compliqué pour le moment, pour moi de dégager du temps. Mais j'espère bien la prochaine fois pouvoir venir physiquement dans le studio. Voilà, côté pseudo, bon, comme je racontais, je pense, un paquet d'imbécilité. J'aime bien séparer, hein, même s'il n'y a pas de grand mystère derrière mon identité réelle et mon pseudo. J'ai un pseudo complet qui est l'incroyable Luc, mais voilà, ça fait un petit peu prétentieux, donc je préfère Luc tout court, avec un K, ça change tout.
D'accord, alors pour les personnes qui veulent en découvrir un peu plus sur toi, ils peuvent aller sur le site incroyableluc.org, donc tout attaché et avec un K. Écoute Luc, je te laisse la parole pour ta chronique.
Bien, je te l'avais bien dit, c'est un truc que j'aime bien balancer, quand la situation est bien foireuse, quand les murs sont mouchetés de caca, quand le regard trahit un esprit en équilibre précaire entre l'incrédulité et la panique, c'est le bon moment pour asséner, je te l'avais bien dit. D'accord, c'est mesquin, mais bon, si on l'avait bien dit et que c'est resté sans effet, on ne peut pas nous accuser de n'avoir rien tenté. Oui, on profite d'un moment de faiblesse pour appuyer là où ça fait mal, mais bon, voilà, on a chacun nos petits travers. Certains donnent généreusement le cancer à leurs proches par le tabagisme passif, d'autres maximisent leur chance de les broyer dans leur bagnole en roulant comme des cons. Il y en a même qui font les deux en même temps. Alors je peux bien me permettre ce petit accès de mesquinerie, qui ne blesse que l'ego et fermienne cette citation d'Homère, attention, c'est facile de critiquer, mais c'est plus amusant de se moquer. Alors je précise que la citation c'est Homer Simpson, hein, pas Homer le poète grec, qui a démontré que libre n'est pas gratuit au 8e siècle avant l'hypothétique naissance de Jésus-Christ. Enfin je crois, j'ai peut-être pas tout compris. Alors pourquoi parler de ça maintenant ? Parce que la Cour des comptes s'est penchée cet été sur le service public du numérique éducatif. Elle s'est notamment exprimée sur ce qu'elle désigne avec des guillemets le plan tablette. Ça avait beaucoup fait râler les libristes et les défenseurs des libertés numériques de tout poil à l'époque. Le plan tablette consistait pour l'essentiel à distribuer généreusement le dernier machin technologique à la mode, sans aucun plan pédagogique particulier. La Cour des comptes aurait dû l'appeler plan verroterie numérique et digitale. Même avec des guillemets, c'est plus précis. Cette absence totale de vision du ministère de l'Intelligence n'a pas été perdue pour tout le monde. Bien entendu, les GAFAM ont fourni un matériel proprio, gavé au DRM, centralisé, contrôlé comme il se doit. Ils ont pu ainsi placer les données personnelles des élèves à leur portée. Si le ministère n'a pas de vision, ce n'est pas une tare dont on peut accabler ses copains de classe GAFAM. Eux savent où ils vont. Au final, ce plan verroterie numérique digitale, c'est plus le ministère offrant des clients aux GAFAM que le ministère offrant des tablettes aux élèves. Je me demande parfois s'il n'y a pas un vrai souci de masochisme dans les ministères. Peut-être ne pondent-ils ces plans foireux et ignorent les critiques argumentées qu'on leur adresse que dans le but de se faire étriller par la Cour des comptes quelques années plus tard. J'imagine qu'ils en discutent actuellement le midi à la cantine avec une petite lueur lubrique dans l'œil et une tache de mayonnaise au niveau du pectoral droit. T'as vu ce que la Cour des comptes nous a mis ? Oh oui, on a vraiment pris cher. En conséquence, nous autres libristes et autres militants des libertés numériques devrions contribuer à leur plaisir trouble et leur asséner de vie du roi, on vous l'avait bien dit. Ajouter une couche à leur plaisir honteux ne peut que nous faire remonter dans leur estime. Peut-être nous écouteront-ils un peu plus, peut-être on pourrait leur faire découvrir d'autres types de plaisirs honteux, comme « J'avoue que j'ai installé Steam sur mon GNU Linux, j'ai Alexa dans mon salon, du coup je n'ai de conversation sérieuse que dans la cuisine, ou j'ai tout mis chez Apple parce que je crois qu'une boîte qui prend tout mon argent ne va pas en plus me voler ma vie. » Il n'aurait alors plus besoin de se faire fouetter par la Cour des comptes, et on pourrait peut-être offrir aux enfants une éducation numérique qui se respecte.
Eh bien écoute, merci Luc. Donc c'était ta chronique, la pituite de Luc. Je pense qu'à un moment ou un autre, on te posera la question de la signification. On va laisser les personnes qui nous écoutent proposer des significations possibles. Et on se retrouve donc le mois prochain.
Eh bien merci, oui. Et bonne émission. Et on se retrouve le mois prochain.
Merci Luc, bonne journée. Alors après cette chronique, nous allons faire une pause musicale. Alors le titre a été choisi d'ailleurs par Luc. Donc le morceau s'appelle « Brew in Jericho » par Sepka Shot et on se retrouve juste après.
Cause commune.
D'écouter Brew in Jericho par Sepka Shot, disponible à la fois sous licence Art Libre et sous licence Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site, enfin partout dans le monde d'ailleurs, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Alors, ce matin, j'écoutais les auditions de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique et la ministre des Armées, Florence Parly, était auditionnée. Le sénateur Pierre Ouzoulias a questionné la ministre sur le fameux accord Open Bar Microsoft Défense, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais surtout le sénateur a indiqué qu'il souhaiterait avoir un retour d'expérience de la gendarmerie nationale sur sa politique logicielle libre. Incroyable hasard, et vraiment un hasard, ça tombe bien car c'est notre sujet du jour. Nous avons en effet l'honneur de recevoir aujourd'hui la gendarmerie nationale, l'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le logiciel libre, donc de la bureautique jusqu'au système d'exploitation. Donc le représentant est le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, chef de bureau IT, donc IT pour technologie de l'information, du service des technologies des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Bonjour Stéphane Dumont.
Bonjour Frédéric.
Alors un grand merci pour avoir accepté de participer à cette émission donc de rentrée de Libre à vous et de partager ce retour d'expérience. Alors chers auditeurs et auditrices, je rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la radio, hein, utilisez votre navigateur web, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur chat et vous pourrez poser vos questions ou donner vos réactions et je surveille le web chat tout en animant l'émission. Alors Stéphane Dumont, vous avez été en charge de 2009 à 2015 de l'industrialisation des quelques 80 000 postes de travail des gendarmes vers un environnement informatique libre, donc système d'exploitation et logiciel. Vous avez donc évidemment une très bonne vision de l'historique de la migration de votre institution vers le logiciel libre, qui est un des plus gros, plus belles success stories, on va dire, du logiciel libre. Alors déjà, en introduction, peut-être une petite introduction de présentation personnelle et aussi de la gendarmerie, parce que tout le monde connaît la gendarmerie sans doute pour un certain nombre de ses activités, notamment de la route et autres, mais tout le monde ne sait pas peut-être ce que représente la gendarmerie en termes de chiffres, et c'est important dans le cadre d'une migration, dans le cadre de, on va dire, du facteur d'échelle.
Oui, bien entendu. Donc moi, je suis le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, je travaille au sein, alors, je vais essayer d'éviter les acronymes, c'est surtout assez barbare comme le STCI carré, qui est le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, qui est une entité en fait commune police-gendarmerie qui, sur certains domaines de compétences, gère l'informatique de la police et de la gendarmerie. Donc j'ai effectivement mené la migration d'OS, de système d'exploitation propriétaire, vers le système d'exploitation libre, on y reviendra peut-être, hein, voilà,
on précisera,
pas forcément à 100% en fait libre, Linux Ubuntu, sur environ 73 000 postes informatiques sur les 80 000 que compte la gendarmerie. Alors la gendarmerie nationale, c'est 100 000 personnes d'actives, et environ 30 000 réservistes. Donc ça fait quand même 130 000 personnes qui sont réparties sur environ 4 300 sites distants, en métropole comme en Outre-mer, avec des débits réseau assez divers et variés, puisqu'on peut aller de la brigade à 5-6 personnels en milieu rural, avec un débit assez limité, en passant par le site d'état-major central, avec un tuyau assez conséquent, et qui comprend environ 2000 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la migration vers le logiciel libre en gendarmerie, en fait, elle est intervenue au début des années 2000 parce qu'on a eu la convergence de trois éléments qui sont intervenus de manière simultanée et qui ont conduit à cette migration à grande échelle. Tout d'abord, une contrainte budgétaire, puisqu'effectivement, si je reprends la célèbre phrase, si on n'a pas de pétrole, on a des idées. Enfin, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Effectivement, si on a du pétrole, ben, on a tendance à aller vers la solution de facilité qui constitue à acheter des solutions du marché et puis gagner en tranquillité. Donc il faut une contrainte budgétaire pour qu'on on se pose la question. Ensuite, il faut une prise de conscience que continuer à rester dans le domaine du monde propriétaire conduit inéluctablement, à partir du moment où on n'a plus suffisamment d'argent, à une perte de dépendance, une perte de souveraineté. Alors, je vais derrière après comment cela se passe. Et enfin, le troisième élément, et tout aussi important, il faut que les grands chefs, à commencer par le DSI, donc le directeur des systèmes d'information, donc le patron de l'informatique et de l'IT en règle générale, au sein d'une entité, d'un grand groupe, ainsi que le directeur général, soit à la fois promoteur, sponsor et vraiment en soutien des équipes techniques pour que la migration continue à se passer bien au fil des années. Parce que vous le verrez, ça, c'est quelque chose de très longue haleine. Une migration logicielle libre.
D'accord, on va justement en revenir en détail. Donc là, c'est début des années 2000, est-ce qu'il y a une date précise de réflexion pour se donner une idée ?
Non, début des années 2000, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que avant les années 2000, on avait un réseau informatique qui reliait uniquement les sites d'état-major, donc au niveau du département, de la région et le site central à Paris. Et qui comprenait environ 10 000 personnes. Et c'est. ces gens, ces personnels avaient accès à de nombreux services informatiques, mais partout ailleurs, donc ces 90 000 autres personnels de gendarmerie, le maillage territorial principal de la gendarmerie, n'avaient accès à rien. Et à un moment donné, on s'est posé la question de relier entre eux tous ces personnels, toutes ces brigades de gendarmerie, et on s'est rapidement aperçu que le passage de 10 000 personnels avec environ 120 sites distants à 100 000 personnels avec 4 300 sites distants constituait un passage à l'échelle qui, d'un point de vue budgétaire, si on restait sur la même solution propriétaire telle qu'utilisée avant le début des années 2000, conduisait à une explosion en fait du coût de licence directe, mais aussi les coûts induits par pas mal de choses différentes. Donc à ce moment-là, on s'est posé la question, effectivement. On s'est dit, est-ce qu'on va engager l'argent pour continuer à payer simplement pour avoir le droit d'exister, le droit de continuer à évoluer, le droit d'être protégé aussi par les solutions propriétaires, que je ne remets pas en cause, ça marche très très bien, c'est super efficace. En termes de sécurité informatique, c'est aussi très très bien. Mais pour continuer à vivre et évoluer dans le temps, il faut continuer à payer. Voilà. Et à un moment donné, on n'avait pas assez d'argent, parce que le passage de 10 000 à 100 000 constituait un gap qui se chiffrait à l'époque en dizaines de millions d'euros. Donc, on a préféré investir différemment et amorcer un virage vers le logiciel libre. À commencer par tout ce qu'on appelle le back-office en fait en informatique, dont le côté serveur.
Côté serveur,
pour résumer. Donc tout le côté serveur avec...
Parce que c'était le côté sans doute peut-être le plus simple à gérer en termes de migration, parce que moins de personnes utilisatrices en fait.
Exactement. Voilà. Et puis on avait tout centralisé quasiment sur la plaque parisienne. Donc on avait les compétences aussi pour ça. Donc on a pu investir sur des systèmes d'exploitation libres pour commencer. Donc l'OS Debian, pour ne pas le citer.
En Debian GNU Linux, dont on a parlé déjà dans l'émission, alors je ne sais plus, je crois que c'était en avril ou mai 2019, mais en tout cas il y a un podcast sur le site de l'April et de Cause Commune.
D'accord. Puis les bases de données, alors à l'époque c'était du MySQL, maintenant on n'est plus sur du PostgreSQL, et puis tous les logiciels en fait qui concouraient à ce back office, hein, côté serveur. Et puis à un moment donné on s'est intéressé au poste de travail. Et pour passer au poste de travail...
Stéphane, juste avant de poursuivre sur le poste de travail, donc sur la partie serveur, déjà à l'époque vous étiez quasiment... très logiciel libre, donc avec une distribution donc Debian GNU Linux principalement.
Oui, tout à fait.
D'accord, ok.
Et toutes les piles logicielles en fait présentes sur ces serveurs étaient forcément libres aussi.
Ouais.
Donc tous les serveurs d'application,
serveurs web, tout
exactement,
ça, de base de données, etc. D'accord,
exactement.
Okay.
Tout est parti vers le libre.
D'accord. Mais par contre, il y a l'enjeu du poste de travail.
Après, il y a eu l'enjeu poste de travail, mais en fait, la question ne se posait pas à l'époque. La question se l'est posée en 2008. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2008 tout simplement, une des clés du succès de la migration vers le logiciel libre et en gendarmerie, ce n'est pas l'OS, en fait, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné...
Donc, ce n'est pas le système d'exploitation, mais c'est les logiciels utilisés au quotidien par les gens.
Exactement. Les logiciels utilisés au quotidien par les gens qui, pour ce que j'appelle le socle commun, donc en gros le navigateur web, le client de messagerie, la suite bureautique, le lecteur multimédia aussi. Voilà. Tous ces outils qui sont utilisés au quotidien par toute personne, en fait, quand on utilise un PC, tout simplement, ces outils-là étaient propriétaires. Et pour continuer à les utiliser, il fallait toujours payer un peu plus.
Toujours payer à chaque fois, à chaque mise à jour.
Voilà, tout à fait, c'est une forme de rente, hein, quelque part, pour bénéficier des mises à jour.
Ou de raquette.
Je préfère le terme de rente, voilà, vous comprenez aisément pourquoi. Mais c'est... Voilà, donc on a souhaité sortir de ces systèmes pour regagner notre indépendance et notre souveraineté vis-à-vis des éditeurs.
Et donc, ce qui est important de comprendre déjà, et je vous laisse poursuivre, c'est que c'est pas le choix du logiciel libre pour le logiciel libre, c'est le choix du logiciel libre comme outil de réduction de coûts, mais aussi de récupération de la souveraineté dont vous avez parlé tout à l'heure, de la maîtrise et de la réduction de la dépendance.
Tout à fait, parce qu'en fait, on s'est aperçu, pour mener cette stratégie de retour à une forme d'indépendance, qu'il fallait mettre en place à la fois une centralisation poussée au niveau de la plaque parisienne. Donc en gros, on récupérait toutes les compétences, on récupérait les ressources humaines aussi nécessaires à cette migration. On a récupéré également les données Voilà, on les a toutes remises en centrale. On a récupéré aussi la gestion des applications, parce que certaines applications ont été développées localement. Donc ça, on s'est aperçu rapidement que cette forte hétérogénéité était difficile à gérer par du logiciel libre et qu'il fallait centraliser absolument les applications pour réussir la migration.
Et donc je suppose que l'idée, c'était que sur le poste de travail, d'avoir des applications légères, type navigateur web,
exactement,
qui permettraient de se connecter à des
exactement
serveurs.
Et l'idée, c'était de rendre tout modulaire, en fait. C'est-à-dire que chaque brique logicielle, chaque pile logicielle employée devait être respectueuse des normes et standards et être modulaire. C'est-à-dire qu'au niveau interopérabilité, c'est un peu un jeu de Lego, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai une brique qui ne me plaît pas, on peut la changer par une autre. Et pour arriver à parfaire cette stratégie, en fait, cette volonté-là, le logiciel libre, en fait, est le mieux placé parmi l'ensemble des logiciels pour pouvoir satisfaire ce besoin. Alors, les progiciels ne sont pas non plus écartés, hein, puisqu'on a des progiciels qui comprennent...
Qu'est-ce que vous appelez un progiciel ?
Un progiciel, c'est un logiciel sur l'étagère propriétaire que nous utilisons pour des besoins très spécifiques.
D'accord.
Je pense notamment, c'est pas un secret, à SAP, qui est notre progiciel de gestion intégrée, donc pour tout ce qui est gestion des personnels, de l'organisation et même maintenant de la solde. Qui est un progiciel, certes, donc pas libre. Donc on est dépendant des montées de version, notamment. On continue à payer, effectivement, pour ça. Mais qui s'est adapté à notre écosystème et à cette stratégie, justement, de respect des normes et standards. Donc on a un client léger, basé sur le logiciel Mozilla Firefox, qui permet d'accéder à SAP, alors que ce n'était pas le cas au moment où on a fait le choix de passer d'Internet Explorer à Mozilla Firefox, notamment.
Voilà, donc c'est le fournisseur qui s'est adapté à vos
exactement,
besoins.
Exactement, et pas l'inverse.
Et ce qui permet quand même de préciser, quand on parle donc de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre, que ce n'est pas donc du 100%, même si on y reviendra, il reste encore des briques propriétaires, comme vous venez de le dire.
Exactement, que ce soit du côté du back-office, d'ailleurs, comme sur le poste de travail.
D'accord.
Je pense à l'antivirus, bon, on va un peu déflorer le sujet, mais notamment l'antivirus, un virus qui est propriétaire.
Voilà. D'accord. Alors, dans la démarche de migration, notamment du poste de travail, vous avez commencé par... la partie, les logiciels dont vous avez parlé tout à l'heure, donc la bureautique et le courriel, alors finalement.
Exactement. Les quatre logiciels, en fait, mentionnés. Alors, voilà.
Donc c'était à l'époque, c'était quoi ? C'était OpenOffice ?
Alors, on a commencé effectivement par OpenOffice, par Mozilla Firefox, par Mozilla Thunderbird comme client de messagerie, et après c'est VLC comme lecteur multimédia. Voilà. Ça a été les quatre briques de base. Sachant qu'on se base aussi sur LibreOffice, lapsus révélateur, effectivement, à l'époque OpenOffice, pour notre logiciel de rédaction de procédures, voilà, qui est une surcouche Java qui sert d'interface utilisateur et qui permet de pré-remplir des templates, des modèles de documents, de procès-verbaux en l'occurrence, grâce à justement au format ouvert. Je vois un magnifique poster en face de moi avec marqué format ouvert pour quoi faire. Mais effectivement, on est basé sur le format open document.
Qui est un format ouvert normalisé par l'OASIS et qui est notamment utilisé par OpenOffice et LibreOffice maintenant.
Tout à fait. Voilà. Vous avez employé un mot important, c'est normalisé en fait. Voilà. À partir du moment où on respecte la norme et standard, effectivement, de facto, on devient interopérable et c'est gage d'indépendance. Voilà.
Et à partir du moment où les éditeurs de logiciels, qu'ils soient propriétaires ou libres, implémentent correctement le standard, ce qui n'a pas forcément été le cas, par exemple, du standard de Microsoft au XML, où les implémentations n'étaient pas forcément conformes complètement à la norme.
Tout à fait.
Et puis, on pourrait revenir sur la façon dont la norme était obtenue, mais c'est un autre sujet. Combien de temps a pris cette partie migration, on va dire, vraiment de la première phase, et quel était le travail d'accompagnement des personnes utilisatrices? Et comment les gendarmes ont pris cette migration, en fait?
Alors, on a pris le temps. Voilà, l'idée, c'est quand même...
Ça, c'est moins important, ça.
Ouais, on a pris le temps. On a vraiment pris le temps. C'est une démarche de migration vers le logiciel libre qui a pris une bonne quinzaine d'années. Voilà, une bonne quinzaine d'années pour arriver au stade actuel de 73 000 postes Linux Ubuntu et quasiment tout notre back-office sur du logiciel libre. On a commencé en 2004, de mémoire, par mettre des premières touches. On a commencé par le client de messagerie. puisqu'effectivement, on avait ouvert la fonction messagerie à l'ensemble de nos utilisateurs. Et au niveau back-office, donc, on avait du Cirrus IMAP, pour ceux qui connaissent, et le client, donc Mozilla Thunderbird, qui a permis d'offrir un nouveau service à l'ensemble des gendarmes qui, avant cette date-là, n'avaient pas de messagerie.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu ça, pas tellement parce que c'était une migration logicielle, mais ils ont vu, c'est un nouveau service.
Un nouveau service.
Un nouveau service utile qui arrive. D'accord.
Et en fait, l'apport de nouveau, ça c'est un élément important également. À chaque fois qu'on a fait soit une migration vers le logiciel libre, soit une nouveauté, il y a eu un apport significatif,
fonctionnel,
pour le travail du gendarme au quotidien. Donc Thunderbird est arrivé avec l'arrivée de la messagerie interpersonnelle et organique, donc en gros la messagerie de commandement et la messagerie personnelle, au profit de l'ensemble des gendarmes. Et ça, c'était une grosse nouveauté. Alors il a fallu convaincre effectivement ceux qui étaient qui avaient déjà une messagerie de rester pendant un temps sur un logiciel propriétaire. Et puis la migration s'est faite au fil des années vers Mozilla Thunderbird. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, alors je crois que c'était en 2006, mais j'en suis moins sûr maintenant, on a migré le navigateur web. Donc on est passé sur Mozilla Firefox. Et là encore, on est arrivé avec une nouveauté fonctionnelle. Simplement, l'accès à Internet, de manière un peu filtrée quand même, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est gendarme sur Internet, de manière filtrée, l'accès à Internet depuis le poste de travail. Chose que n'avaient pas les gendarmes auparavant. Et pour ça, ils étaient contraints de passer par le navigateur Firefox. Donc, je vous garantis qu'en une semaine,
L'adoption était faite.
L'adoption était rapidement, enfin même très rapidement faite. Et à chaque fois, il a fallu trouver un apport fonctionnel, une nouveauté, qui a permis de favoriser l'acceptation et la conduite du changement par tous nos gendarmes.
Alors, toute cette migration, mais je voulais se poser une question. Toute cette migration a été faite uniquement avec des services, enfin du personnel interne, ou est-ce que vous avez fait appel à des prestataires?
Non, c'est essentiellement de l'internalisation.
Ouais. D'accord.
Pareil, pour c'est bien d'externaliser, mais quand on externalise, généralement, c'est qu'on est pris par le temps ou qu'on n'a pas les compétences pour le faire soi-même. Et quand on a une stratégie de souveraineté, d'indépendance, il y a quand même un minimum à internaliser pour pouvoir rester maître de ce qu'on considère comme le cœur même du système d'information. Donc c'est le cas pour tout ce qui est back-office quasiment, et pour ce qui est poste de travail, effectivement, ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant on a internalisé la compétence, et je ne vous cache pas que pour gérer environ 80 000 PC, dont 7 000 Windows quand même, parce qu'on n'est pas dogmatique, on est pragmatique en gendarmerie. Donc on a quand même conservé une part de Windows, réduite à sa plus simple expression. On a trois personnels en centrale, voilà, qui gèrent le poste de travail, qui l'administrent, qui le mettent à jour, qui poussent les mises à jour par le réseau de la gendarmerie.
D'accord. Alors, donc ça, c'est la période, les quatre fameux logiciels phares. Les sites d'exploitation restent Windows.
Oui, toujours Windows.
Et après, il y a l'étape, on va dire, supplémentaire, qui est de migrer vers un système d'exploitation entièrement logiciel libre, ou en tout cas, le plus possible, entièrement logiciel libre. Et donc là, vous faites le choix, alors vous allez nous expliquer pourquoi, de partir sur une distribution donc, qui s'appelle Ubuntu, alors que vos serveurs, je le rappelle, sont sous Debian et GNU Linux. Donc sur le poste de travail, par contre, vous partez sur Ubuntu. Alors quelle est la raison rationnelle pour ce choix?
Alors, avant de répondre à votre question, je vais revenir sur un élément aussi important, c'est qu'en 2008, on s'aperçoit, en établissant, grâce à un logiciel libre, d'ailleurs, dans lequel nous étions partie prenante de la communauté, donc le logiciel OSS Inventory, qui est un logiciel d'inventaire et télépoiement de parc informatique, enfin sur le parc informatique, on a donc, grâce à cet outil, établi une cartographie des applications et des contraintes résiduelles qui nous empêcheraient, éventuellement, de passer à un OS libre. Ou pas 100% libre, c'est un abus de langage quand je dis libre, effectivement, surtout face à un libriste comme vous, mais donc à un OS libre, et on a donc ce besoin pour parvenir à déployer localement sur chaque brigade un PC. Donc un PC sous Linux Ubuntu, je vais expliquer pourquoi cette distribution en particulier et pas Debian, GNU Linux effectivement. Donc un PC par unité qui a servi de première approche et de première accroche auprès de nos personnels. Il a permis déjà de voir que Linux sur un poste de travail, c'était largement acceptable, que ce n'était pas forcément disruptif par rapport à son environnement Windows, parce qu'on a fait quelques adaptations, ceci étant dit, et parce qu'on arrivait avec plusieurs services supplémentaires, notamment un service de partage de fichiers qu'il n'avait pas auparavant. Donc on a mis en place un serveur de fichiers, donc un partage Samba pour ceux qui connaissent, sur cette machine-là. Et de facto, cette machine-là, en plus, est arrivée avec un écran. C'est pareil, ça peut paraître goodie, ça peut paraître anecdotique, mais c'est super important. Avec un écran, alors, c'était pas 16/9, mais pas loin, avec une machine assez retaillée, puisqu'on a pris une workstation, pas un desktop. Et cette machine, elle
fonctionne. Machine puissante et belle.
Puissante, elle était belle, elle était attractive.
Attractive. Voilà. Ça envoyait du rêve, comme dirait.
Ça envoie du rêve.
Exactement. Les jeunes aujourd'hui.
Exactement, ça envoie du rêve. Et cette machine-là, en fait, a été rapidement adoptée par l'ensemble des personnels et nous a permis de montrer que c'était possible d'avoir un système autre que le système, je dirais, majoritaire, que ce soit chez eux comme à l'époque en gendarmerie. Donc un OS Microsoft, pour ne pas le citer. Et alors pourquoi ça, c'est un prérequis qui nous a permis de s'apercevoir que, concrètement, l'acceptation du changement pour les utilisateurs était possible assez facilement, en fait. En tout cas, il n'y avait pas de problème vraiment majeur dans la migration ultérieure. D'autant plus que pour l'emploi au quotidien des applications métiers, comme on avait fait le choix de tout webiser, ou presque, en fait, via le navigateur, ils avaient accès à la même chose, que ce soit sous Windows comme sous Linux. Via le client messagerie, Thunderbird, ils avaient la même chose, le même rendu en fait, visuel, sous Linux comme sous Windows. Via VLC, c'est la même chose. Via OpenOffice à l'époque, c'était la même chose. Leur logiciel de rédaction de procédures, basé sur OpenOffice, comme je l'ai précisé, c'est la même chose en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Le fond d'écran aussi, on a mis le même fond d'écran, on l'a imposé partout. Donc grosso modo, ce qu'on appelle le look and feel, donc le rendu visuel, était vraiment proche. Et c'est aussi un des choix qui a conduit à la distribution, enfin au choix de la distribution Ubuntu. C'est un habillage qui ressemblait le plus possible en fait à l'OS Microsoft Windows pour avoir le moins de perturbations possibles pour nos utilisateurs. Ce qui nous a même conduit, j'ai eu une question sur les forums là rapidement, ça a quand même conduit à mettre en place un petit plugin pour avoir une espèce de barre des tâches qui n'est pas présente nativement sur Ubuntu en bas pour ressembler à l'OS Microsoft Windows.
Alors effectivement, c'est une des questions.
C'est un des choix. Hein. Après, il y a une autre pour terminer sur la question. Il y a un autre choix aussi, c'était qu'on partait quand même sur l'inconnu, enfin sur quelque chose d'inconnu. À l'époque, on était vraiment pionniers sur le sujet de partir sur. On avait une volonté de partir sous 2 ans. De monter jusqu'à 35 000 PC sous Linux Ubuntu. Donc ça fait un peu peur quand même, parce que si on achète pas mal de machines et qu'on n'est pas capable de s'en servir après, ça fait peur. Voilà, ça s'engage de l'argent public pour rien, et ça, c'est pas acceptable. Donc on a fait le choix de partir sur une distribution la plus proche possible à l'époque de Debian, qui était supportée par un éditeur qui nous paraissait avoir une assise financière et un lien avec les communautés assez puissant pour nous assurer, en cas de pépin, que tout allait bien marcher.
Donc l'éditeur en question de cette distribution libre, c'est Canonical.
Oui.
J'en profite pour préciser que donc, l'émission dont je parlais sur les distributions GNU Linux, alors vous verrez pourquoi moi je dis GNU Linux et pas simplement Linux, c'est l'émission donc, du 30 avril 2019. Donc le podcast est disponible sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Donc je remercie le LUGEM qui me l'a précisé sur le web chat. Et donc c'est effectivement, tout à l'heure vous parliez donc des questions sur le forum, parce que avant de parler en émission, j'avais questionné autour de moi, est-ce que vous avez des questions sur la gendarmerie nationale, et il y a eu quand même pas mal, donc je vous avais transmis une certaine, et une des questions était effectivement, est-ce que c'est perturbant pour des gens qui sont habitués à avoir la barre des tâches en bas, de tout d'un coup avoir une barre des tâches en haut. On peut penser que c'est mineur, mais en fait, ça peut être quelque chose de perturbant. Donc là, vous avez pris ça en compte pour finalement l'adapter pour que ça ressemble le plus possible à ce que les gens connaissaient avant.
Exactement. En fait, la seule différence entre l'OS Ubuntu, je précise, ça a un incident sur le quiz.
Exactement.
Voilà. Donc sur l'OS Ubuntu, après, je préciserai ce que c'est en fait Ubuntu si vous le souhaitez.
Allez-y,
donc,
oui.
Donc l'OS Ubuntu. On a essayé de l'adapter à sa distribution Linux Ubuntu, en l'occurrence, pour qu'elle soit la plus en phase avec ce que les utilisateurs avaient l'habitude d'utiliser, donc l'OS Microsoft Windows XP à l'époque. Et donc ce qui a conduit à cette nouvelle barre des tâches, ce qui a conduit également à mettre en place des applications communes, donc ça j'en ai déjà parlé. Et en fait, la seule différence notable pour l'utilisateur final, la seule chose que les techniciens de proximité, techniciens IT de proximité, avaient expliqué à nos utilisateurs, c'est simplement au niveau de l'explorateur de fichiers. Donc, on n'était plus sur l'explorer Windows, mais sur Nautilus, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, sur Nautilus pour sur Linux Ubuntu. Et que ça changeait un petit peu fondamentalement, parce qu'il n'y avait plus le C2. Le D2. Le E2. Les partages réseau un peu à la sauce Microsoft. Mais qu'on avait simplement un slash home pour les initiés. Et quelque part, une façon d'ordonner ces données assez simple, en fait, et assez intuitive. Et en 2 heures. Sincèrement, en 2 heures, l'appropriation de Linux Ubuntu par nos personnels a été réalisée, par personnel. Alors, il y a une formation d'une demi-journée qui a été organisée au niveau national sur la suite bureautique, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc à l'époque, en plus, OpenOffice n'était pas aussi mature qu'actuellement l'est LibreOffice. Donc il y avait quelques éléments perturbants et donc il a fallu former l'ensemble de nos personnels à chacun des grands modules qui composent une suite bureautique, donc le tableur, le traitement de texte, etc. Et ça a pris donc une demi-journée par personnel, par module qui équipe une suite bureautique. Mais à part ça, il n'y a pas eu de formation en fait. Il y avait une question qui est relative aux formations des personnels. On n'a pas formé nos personnels. Voilà, ça s'est fait naturellement dans la continuité en fait, tout au long des années de cette migration.
D'accord. Migration sur la durée, ce qui peut expliquer aussi cet aspect. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter, alors je cherche, Musica Libre par San Blas Posse, et on se retrouve juste après.
El creador necesita un marco de derechos, igual que el trabajador necesita su estatuto de trabajo.
Cause commune. We'll be right back.
venons d'écouter Musica Libre par San Blas Posse, donc disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre échange avec Stéphane Dumont sur la migration de la gendarmerie nationale. Et je vais prendre quelques questions que je vois sur le salon web. Alors je vais même en profiter pour préciser que pour cette saison 3 de Libre à vous, vous pouvez également nous appeler. Il y a un numéro de téléphone 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Si vous appelez, vous tomberez sur Patrick en régie. Vous pourrez poser une question ou simplement réagir. Donc n'hésitez pas. Ou sinon, vous venez sur le web chat de la radio, donc sur le site causecommune.fm. Alors je vais prendre justement quelques réactions, quelques questions qui sont sur le chat. Alors j'ai une réaction donc de Cousine qui dit que les migrations informatiques intéressent de nombreuses entreprises. C'est souvent une période d'implication forte pour les salariés selon leur métier. Cela crée de la dynamique. Marie-Odile qui dit que cette migration s'est faite de manière très intelligente et c'est une belle façon d'investir l'argent public. Et elle espère que vous pourriez faire des émules dans d'autres ministères, notamment l'éducation nationale. Je suppute que Marie-Odile aimerait bien que vous passiez dans l'éducation nationale, Stéphane Dumont. Une question de Débla. Alors, une question sur le matériel. Effectivement, parce que là, on a parlé du logiciel. Donc, comment le choix des matériels annexes s'est articulé dans cette migration ? Typiquement, comment des matériels comme des photocopieurs avec des drivers uniquement Microsoft sont intégrés donc dans le système d'information de la gendarmerie nationale ? Donc, Stéphane Dumont.
Alors, il y a plusieurs questions dans la question. En fait, il y a plusieurs réponses à apporter. Tout d'abord, on a une vision assez jacobine en gendarmerie de la gestion du matériel. Donc, en gros, je l'ai répété, on centralise pas mal de choses, et notamment le droit d'acquisition et d'achat de matériel. Que ce soit le matériel principal, le PC, voilà, où c'est une commande centralisée qui est faite par le service dont je dépends, et qui achète plusieurs dizaines de milliers de PC chaque année. Et ces PC doivent être compatibles avec l'OS Linux Ubuntu dans la dernière version LTS, puisqu'on ne l'a pas abordé. Mais
alors, LTS, c'est-à-dire le long terme support, donc supporté sur le long terme, donc plusieurs
exactement.
Années.
Exactement, support pendant 5 ans, ce qui est important pour un grand compte, parce qu'on a besoin de stabilité et pas forcément d'évolution fonctionnelle tous les 4 matins. Le principe principal, c'est d'avoir de la stabilité. Donc, matériel principal, le PC, mais également les matériels annexes, où on a à la fois une chance, dans notre chance, une chance et un malheur, c'est qu'on est soumis au marché public. Tout à fait. Et les marchés publics, c'est contraignant, effectivement, parce qu'il faut rédiger des appels d'offres, il faut pas mal de travail en fait, derrière, mais c'est un énorme avantage, c'est qu'on peut imposer, donc, au-delà de l'aspect gain financier, puisque les marchés publics quand même permettent d'économiser pas mal de centaines de millions d'euros au niveau de l'État, mais permettent aussi d'imposer ce que l'on souhaite. Voilà. Et à partir du moment où on impose pour un marché d'impression, par exemple, impression, scan, enfin, en gros ce qu'on appelle un photocopieur multifonction, à partir du moment où on impose dans la rédaction de l'appel d'offres d'être 100% compatible avec Linux Ubuntu, que ce soit avec le poste de travail, mais surtout aussi côté serveur, ne pas dépendre d'un OS, enfin d'un système d'exploitation propriétaire, et donc pouvoir s'installer sur une Debian, eh bien les grands groupes qui répondent, s'ils répondent à côté de la plaque, ben, ils ne sont pas sélectionnés tout simplement, et on a toujours eu des grands groupes qui ont répondu présents et qui se sont adaptés face à nos spécifications qui sont toujours d'être, ce que je disais, respect des normes et standards et puis capacité de modularité et d'interchangeabilité, d'interopérabilité avec l'ensemble de nos systèmes d'information.
Alors, votre réponse est très intéressante, que ça montre la puissance aussi donc, des marchés publics. Et comme on le dit depuis de nombreuses années, via les marchés publics, on peut imposer notamment le recours au logiciel libre. Et ça n'exclut pas des prestataires, c'est que tous les prestataires peuvent répondre. Simplement, il faut qu'ils répondent par rapport aux critères fonctionnels et politiques du logiciel libre. Concernant les PC que vous commandez, donc c'est des PC qui sont sans système d'exploitation, donc vous sans la licence Microsoft Windows.
Tout à fait.
D'accord. Voilà. Donc c'est excellent. Donc je passe en revue les autres questions. Alors déjà une question concernant, tout à l'heure vous avez parlé de l'importance des relations avec les communautés. Alors j'ai trois questions. Est-ce que la gendarmerie a dû modifier le code de certains logiciels pour ses besoins ? Et est-ce que vous avez des relations avec les communautés de certains de vos logiciels? Est-ce que vous contribuez? Et dernière question, est-ce que dans les outils internes que vous développez, je suppose en interne, est-ce que vous avez certains que vous avez déjà libérés sous licence libre ou est-ce que c'est prévu? Alors, trois questions pour faire le lien avec les communautés, on va dire.
Tout à fait. Alors, pour reprendre la question, sous l'angle ce qu'on développe. Alors, en fait, on ne développe pas grand-chose. On est surtout côté poste de travail, j'entends, d'accord? On intègre beaucoup de choses, mais on ne développe pas beaucoup. Par contre, indirectement, en fait, comme on prend contact avec les communautés, je pense notamment à Mozilla Firefox, hein, on a des contacts récents d'ailleurs, qui sont fortement intéressés par notre retour d'expérience également, avec VLC, puisqu'on a notamment pas mal de vidéoprotection en fait, ou de vidéosurveillance dont les vidéos sont saisies dans un cadre judiciaire qu'on doit exploiter. Et souvent, le logiciel qui permet de lire le flux vidéo est propriétaire, voilà, et ne fonctionne que sur un OS propriétaire. Donc ça nous met un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'OS propriétaires en gendarmerie. Donc pour ça, on essaye généralement d'ouvrir le flux vidéo par VLC, mais parfois VLC n'arrive pas à lire ce flux vidéo, simplement pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que la ligne de commande en fait, qui est passée ne correspond pas. Donc on a une prestation avec VLC qui permet d'intégrer ces formats vidéo propriétaires pour être lu nativement sous VLC. Et après, c'est intégré en fait, dans la version N+1 de VLC. Et toutes ces contributions-là en fait, sont vraiment indirectes. C'est-à-dire qu'on investit en fait, dans des prestataires externes qui vont modifier le code applicatif. Et après, ce code, bien sûr, est reversé à la communauté. Voilà. On n'a aucune volonté de ne pas reverser le code à la communauté.
Quand vous dites bien sûr, je ne suis pas sûr que ce soit la politique de tout le monde. C'est une bonne politique, mais ce n'est pas forcément naturel pour toutes les personnes de dire à son prestataire, non seulement vous faites la modification parce qu'on en a besoin, mais en plus vous la reversez à la communauté parce que c'est un travail supplémentaire quand même de l'intégrer dans le processus, on va dire, du logiciel d'origine.
C'est vrai, mais c'est de l'argent public. Donc,
nous sommes d'accord.
S'il s'agit d'argent public, à un moment donné, si ça profite à tout le monde, c'est mieux.
D'accord, non, nous sommes tout à fait d'accord. Tiens, une petite question technique. Quelle version de Gentoo êtes-vous actuellement, sachant qu'Ubuntu doit être en version 2.9.04, je me souviens bien?
On est basé sur la version LTS, donc d'accord. Je le rappelle.
C'est, oui.
Voilà. Donc, on est actuellement sur Ubuntu 16.04 et on a amorcé depuis environ 3-4 mois la migration vers Linux Ubuntu 18.04. Sachant que la fin de support de la 16.04 est fixée 5 ans plus tard, donc en avril 2021, on a jusqu'en avril 2021 pour amorcer pour la migration vers la distribution 18.04 LTS.
D'accord. Alors, je passe en revue les questions du salon. Alors, une question, alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que vous utilisez le correcteur grammatical Grammalect? Et est-ce que vous aimeriez qu'il soit plus facilement installable en étant sous forme de paquet ou directement intégré au logiciel, notamment bureautique? Et question liée, qui est intéressante, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité. Est-ce que le fait d'utiliser des logiciels, alors je reprends la question alternatif, vous pose des problèmes dans les échanges de documents? Et comment cela a-t-il évolué sur les années? Parce qu'on parle d'une migration qui a presque 20 ans.
Alors, pour répondre à la première question sur Grammalect, je suppose fortement que c'est quelqu'un du CIL, donc le socle interministériel
du logiciel libre,
voilà,
qui a posé la question.
Je soupçonne fortement quelqu'un du CIL d'avoir posé la question, puisqu'effectivement, c'est parmi la suite LibreOffice, comme annexe à la suite LibreOffice, souvent le plugin, alors je ne sais plus si on dit plugin pour LibreOffice, mais Grammalect est préconisé dans le cadre du
CIL. Un greffon, peut-être.
Un greffon.
Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui.
Donc la réponse est non. Mais effectivement, ça peut être une bonne option. C'est vrai que nativement, on n'y pense pas forcément, puisque les retranscriptions doivent être fidèles en fait, à ce qui est dit. Donc parfois, les gens font des fautes de grammaire. On doit retranscrire fidèlement ce que disent les gens et pas corriger de nous-mêmes pour faire du bon français, hein, sachant que ça peut avoir parfois son importance.
Oui, effectivement. Ouais.
Voilà. Donc. Pour les besoins, je dirais en état-major, en interne, d'échange interne, pourquoi pas. Mais sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt immédiat. En tout cas, ça peut être à l'étude, effectivement. Bon, j'en prends note. Pour le second point, effectivement, c'est un combat permanent, en fait. L'échange de documents avec les prestataires externes. Parce qu'en interne, c'est bouclé.
Oui, en interne, c'est bouclé.
C'est bouclé, mais c'était compliqué. Hein. Et c'est toujours compliqué. On a toujours des résistances internes, puisqu'on a toujours quand même quelques packs office qui...
Qui existe
pour des besoins très spécifiques, parfaitement justifiés d'ailleurs, mais qui existe Donc il faut quand même continuer à parfois se battre pour imposer le format OpenDocument en lieu et place d'autres formats.
D'accord.
Et la principale difficulté, effectivement, sont les partenaires extérieurs. Mais globalement, j'observe depuis plusieurs années un lissage, une atténuation de la différence entre les formats. Et on a de moins en moins de difficultés pour exploiter les formats un peu exotiques que l'on rencontre parfois. Voilà.
D'accord. Alors, avant la fin de l'émission, on va évidemment parler des bénéfices, des enseignements et puis des projets, mais je ne peux pas passer sous silence totalement un sujet qui est l'Open Bar Microsoft Défense. D'autant plus donc qu'en 2016, il y a eu alors déjà parce que c'est un sujet que l'April suit depuis de très nombreuses années, et c'était même le sujet de notre première émission en mai 2018. Et déjà, bon, la migration de la gendarmerie nationale au début des années 2000 a généré des choses très positives côté du ministère de la Défense à l'époque, notamment la première directive logicielle du ministère de la Défense de 2006 qui préconisait en tout cas le recours au logiciel libre. Et puis en 2016, donc, il y a eu un reportage dans Cache Investigation sur l'Open Bar Microsoft Défense et notamment il était révélé un document daté de 2006 dans lequel il était écrit, donc un document interne de la gendarmerie, que le choix des logiciels libres sera potentiellement vécu par Microsoft comme une nouvelle menace à son monopole et que cette situation peut justifier aujourd'hui, donc en 2006, des actions ciblées pour empêcher ou discréditer la politique de la gendarmerie en matière de poste de travail. Alors, ma question est simple, est-ce que la gendarmerie ou vous-même avez-vous subi des pressions, donc soit par Microsoft, soit plus tard peut-être par le ministère de la Défense ?
Alors vous comprendrez aisément qu'en tant que militaire, j'ai un devoir de réserve et que je ne pourrais pas répondre à cette question, tout comme je ne l'ai pas fait d'ailleurs à l'occasion de l'émission Cache Investigation, puisque j'ai été interviewé par l'équipe en fait, lors des tournages à l'époque, alors que j'étais en fonction sur le terrain, en opérationnel. Ce que je peux dire, c'est que le choix en fait, du ministère de la Défense à l'époque, maintenant ministère des Armées, il peut être compréhensible. Enfin, je peux le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un choix qui est fait de continuer à utiliser des produits qui sont fonctionnellement satisfaisants. Et à partir du moment où on décide de continuer dans cette démarche, ça a du sens d'avoir un contrat dit open bar. Maintenant, ce n'est pas le choix qu'a fait la gendarmerie, clairement. Voilà. Notre choix, nous, c'est de se dire qu'à un moment donné, on ne veut plus être tributaire de décisions unilatérales d'éditeurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des communautés, voilà, puisque la communauté est aussi une forme d'éditeur. Quand vous prenez par exemple OpenOffice, on n'est pas resté sur OpenOffice. Hein. Dès que le fork vers LibreOffice a été amorcé, ben effectivement, on s'est désengagé d'OpenOffice parce que la direction prise à l'époque par Sun, si je me souviens bien, ne nous convenait pas. On sentait bien que derrière, il y avait un modèle commercial qui allait être établi pour exploiter le filon OpenOffice. Et ça, c'est important pour nous. C'est pas tant maintenant, en fait, qui nous intéresse, mais c'est plutôt la capacité à avoir le choix plus tard.
Voilà, c'est la maîtrise de votre avenir.
Exactement. Voilà. La maîtrise de notre avenir, c'est ça, en fait. C'est de notre propre chef. Voilà, on ne souhaite pas dépendre de qui que ce soit. Voilà, le gendarme, il a ça en cheville en lui, enfin, c'est, même sur le terrain. Il n'aime pas dépendre de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit résilient et capable de s'adapter, capable de réagir selon ses propres décisions. Et c'est quelque part la stratégie qui a été adoptée en gendarmerie depuis le début des années 2000.
D'accord. Donc je regarde le salon pour savoir s'il y a des nouvelles questions. Bon, en tout cas, il y a des réactions très positives sur ce que vous êtes en train de dire. Bon, Mario Dill qui dit que maîtrise, indépendance, souveraineté, ce sont des mots qui n'ont pas le même sens partout. Peut-être que d'autres, effectivement, ont une autre vision de ces mots-là. Je regarde. Le choix des pseudos sur le salon web est fait sans doute pour me faire rire. Donc, un œuf brouillet qui dit, concernant tout à l'heure notre échange sur le reversement des contributions, précise que donc forcer à reverser les modifications permet d'être sûr que ces modifications seront disponibles nativement dans les prochaines versions du logiciel. Donc effectivement,
exactement,
c'est
le cas de VLC par exemple.
C'est le cas de VLC.
Ouais, tout à fait. C'est le cas aussi de modifications, parce qu'on est, on est aussi membre de communauté et on l'a été pour OCS Inventory, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un logiciel d'inventaire de parc et de télédéploiement logiciel. Même si maintenant on a passé un peu la main, mais à l'époque, tous les développements qui étaient faits étaient reversés à la communauté. On est également membre de la core team d'un SSO, donc un single sign-on, un outil qui permet de s'authentifier une seule fois, voilà, sur un navigateur pour l'accès à une application, qui s'appelle Lemon LDAP. Voilà, et, donc tous les développements qui sont faits par des gendarmes, donc payés sur les deniers publics, sont également reversés à la communauté. Donc ça, c'est important en fait. Ça fait partie de l'ADN de la gendarmerie d'un point de vue informatique. On sait qu'on consacre de l'argent public indirectement, donc par des ressources humaines, à des développements qui doivent servir à d'autres. Donc on a d'autres administrations françaises, quasiment toutes en fait, qui se servent de la modèle d'app, voilà, par exemple.
Alors, c'est une réflexion tout à fait personnelle, parce que vous parlez de l'argent public, de marché public. Je me dis que peut-être que le fait que la gendarmerie a été très active dans les années 90, dans les enquêtes sur la corruption, notamment des marchés publics, et que peut-être les gendarmes sont moins sensibles aux pressions extérieures et plus sensibles aussi à cet usage, je dirais même pas raisonné, cet usage normal de l'argent public qui doit aller pour le public. Mais c'est une réflexion tout à fait personnelle. Je ne sais pas si vous voulez commenter ou...
Non, je pense pas. Enfin, non. Je pense pas qu'il y ait l'un de cause à effet directement entre ces deux choses-là. Il y a vraiment le monde judiciaire et puis le monde IT, mais je crois que c'est quelque chose que j'observe en tout cas de plus en plus, hein, le bon emploi des fonds publics. Il y a quand même de gros moyens de contrôle maintenant qui sont mis en place, notamment la Cour des comptes, vous en parliez tout à l'heure, les chambres régionales des comptes aussi, qui vérifient ce qui est fait de l'argent public. Et bon, même si du gaspillage a lieu parfois par endroit, je pense que globalement la situation s'assainit en tout cas.
D'accord. Alors, le temps passe vite, on va passer peut-être, bon, on va même passer sûrement, aux bénéfices, aux enseignements. Vous avez donc une longue expérience, un long retour d'expérience sur cette migration réussie, donc sur du presque 100% logiciel libre, mais la route n'est pas encore terminée, la migration n'est pas encore terminée. Donc, quels bénéfices vous en tirez? Est-ce que ça correspond aux objectifs initiaux? Et puis, quels enseignements vous pourriez donner, allez, on va dire, à d'autres structures de taille équivalente ou même plus grosse, parce qu'évidemment, une migration dans une petite structure de 10 personnes et une migration sur 80 000 postes et une centaine de milliers de gendarmes, c'est pas du tout la même chose. Donc, quels enseignements vous pourriez dire, vous pourriez donner, voilà, en résumé de cette émission?
Alors, l'enseignement principal, c'est pour réussir dans cette migration vers les choses libres, il faut d'abord raisonner application. C'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que si on raisonne poste de travail en premier, en disant je vais mettre du Linux par-ci, par-là, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va marcher. Et quand rien ne marche, bah, ça remonte vite aux oreilles du DSI, ça remonte vite aux oreilles du directeur général, qui va légitimement dire, bon, écoutez, maintenant, les geeks de service, vous arrêtez vos bêtises et vous me remettez tout comme avant, moi je veux que ça marche. Donc pour que ça marche, il faut s'occuper des applications et une bonne pratique, à mon avis, c'est de webiser les applications, donc les rendre accessibles uniquement via...
Avec un navigateur web.
Avec un navigateur web, donc en l'occurrence Mozilla Firefox, puisqu'il est respectueux des normes et standards. J'insiste, martel, mais la marteau-thérapie, parfois, ça a du bon. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'attaquer aux applications, de réduire les adhérences via les applications avant de s'attaquer au système d'exploitation.
D'accord.
Alors ça, c'est pour la partie conseil. Maintenant, la partie bénéfice, je pourrais vous citer des chiffres.
Citer des chiffres, parce que
non,
j'adore les chiffres.
Je pourrais le faire.
C'est important
mais
quand même.
Je pourrais le faire, mais c'est dans la presse, c'est documenté. J'ai vu le poste de ZDNet ce matin, là, qui faisait référence à quelques présentations qui ont déjà été effectuées par le passé, où on parle de 2 millions d'euros économisés chaque année, ne serait-ce que pour les licences postes de travail. Mais je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière, en fait, il y a des tas d'autres bénéfices. J'ai parlé de centralisation. Cette centralisation poussée permet d'économiser des ressources humaines et rebasculer, en fait, sur le terrain des gendarmes qui, auparavant, étaient dédiés à l'informatique. On a estimé que, enfin, on n'a pas estimé, il y a eu un rapport là-dessus. Environ 35% des ressources humaines techniques ont été reventilées sur le terrain grâce à cette migration vers le logiciel libre. Enfin, grâce à cette centralisation, en tout cas, de la compétence technique. Maintenant, comme autre bénéfice, je dirais qu'il est difficilement quantifiable, c'est justement la capacité à rester indépendant. Ça, c'est vraiment le maître mot de s'il n'y a qu'une seule chose que les auditeurs devraient revenir, c'est ça en fait, c'est la capacité à avoir le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord avec la direction prise par tel ou tel logiciel, enfin éditeur de logiciel, bah, qu'on soit capable d'avoir le choix, et un choix pas contraint par des... considération strictement pécuniaire, mais simplement par notre notre désir de continuer vers telle ou telle direction en fonction de nos souhaits fonctionnels.
D'accord. Et si vous avez un message à faire passer au sénateur Pierre Ouzoulias et puis aux membres de la commission de la souveraineté numérique, est-ce qu'il y en a un
On reste bien évidemment à disposition.
Alors, disposition.
À disposition pour pouvoir en discuter assez longuement. Parce que là, je vois que le temps est passé très, très vite, que je n'ai pas dit le quart de la moitié de ce que je pourrais dire sur le sujet. Et que naturellement, je suis enclin à rencontrer toute personne qui souhaiterait bénéficier de notre retour d'expérience sur le sujet.
Bon, de toute façon, on aura l'occasion de vous réinviter pour reparler de ce sujet et puis de parler de ce que vous vouliez parler et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder, ou peut-être même sous forme de débat avec d'autres structures de même taille, ou de parler de migration. En tout cas, bon, c'est très, très, très intéressant. Et puis, je vous remercie encore une fois de ce retour d'expérience, qu'en 2016, vous n'aviez pas pu parler pour la télévision. Ben, pour cause commune, vous pouvez parler. Je vérifie quand même sur le salon web s'il y a des questions ou des remarques. En tout cas, il y a pas mal de félicitations pour cette action de la gendarmerie nationale et cette migration sur le long terme. En tout cas, écoutez, Stéphane Dumont, il y a des cris. Voilà, merci la gendarmerie. Voilà quelqu'un qui.
C'est toujours agréable à entendre, effectivement. Et au-delà de ma simple personne, moi, je suis qu'un maillon de la chaîne. Hein. J'ai vécu j'ai piloté l'industrialisation uniquement de la partie poste de travail, mais pour tout le reste, en fait, c'est une équipe entière, enfin des équipes entières qui ont travaillé et œuvré en la matière et qui ont eu l'appui, j'insiste aussi, des différents DSI, donc patrons d'informatique de la gendarmerie, ainsi que des différents directeurs généraux qui se sont succédés au fil des années tout au long de cette migration. Et ça, c'est primordial aussi.
C'est-à-dire que le soutien de la hiérarchie dont vous parliez tout à l'heure est fondamental.
Il est fondamental. Il est fondamental pour éviter des retours arrière parce que des choses ne fonctionnent pas ou parce que d'un point de vue financier ça ne passe pas ou parce qu'on n'a pas les rages, parce que ça prend du temps, parce que les gens râlent, parce que plein de choses en fait. Voilà.
D'accord.
Il faut avoir foi en fait en la stratégie et conserver cette ligne directrice quoi qu'il advienne en fait.
C'est une très belle conclusion. Patrick Angy vient de me dire qu'on a eu un appel téléphonique avec une question d'une personne. Et la question donc portait sur la prise en compte donc de l'accessibilité au niveau donc du système d'information de la gendarmerie nationale. Donc je redonne la parole à Stéphane Dumont.
Alors effectivement, ça a été pris en compte puisque avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, donc le V3, depuis 2015, on a pris en compte la situation de handicap visuel pour refondre un peu les applications nos applications web centrales. Mais pas uniquement, puisque depuis 2018, alors c'est assez récent, on aurait peut-être pu le faire plus tôt, mais on avait quand même pas mal pris par d'autres sujets. En 2018, on a développé, mis en place un poste de travail informatique accessible. Alors c'est un poste Ubuntu, bien entendu, qui dispose d'outils adaptés, donc un retour vocal, un zoom par loop, un curseur cible, une inversion des couleurs par exemple, qui permet au personnel en situation de handicap visuel d'utiliser le PC à disposition par l'administration, sans avoir à acquérir un PC un peu spécial. Voilà.
D'accord. Bon, alors, merci pour cette réponse et on remercie la personne qui nous a appelé pour poser cette excellente question. Je remercie donc de nouveau Stéphane Dumont, donc, qui est chef de bureau IT, donc technologie de l'information, du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure et qui a fait partie de l'équipe qui a mené cette migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre. Migration évidemment qui se poursuit. Écoutez, merci Stéphane et bonne
merci
journée.
Merci à vous, au revoir.
Nous allons faire une pause musicale.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Indie Rock Walk par Alex Nekita. C'est disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler de taxes foncières, si, si, et aussi de transparence des algorithmes publics. Alors, bonjour Xavier, normalement tu es avec nous au téléphone.
Je suis bien là, bonjour à tous.
Alors Xavier, alors que les propriétaires vont recevoir leurs taxes foncières d'ici peu, Bercy a ouvert il y a une dizaine de jours le code source utilisé pour le calcul du fameux prélèvement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Absolument. Alors, Bercy s'en est pas forcément vanté, mais cette ouverture, en fait, c'est suite à une demande d'ICIADA que j'avais effectuée en janvier 2018, donc pour compte de Next Impact. Parce que depuis le vote de la loi numérique fin 2016, les codes sources des administrations sont expressément, en fait, considérés comme des documents administratifs. Ça veut dire qu'ils sont communicables, en principe, aux citoyens, sur simple demande. Et donc, pour voir si les administrations jouaient bien le jeu, j'étais allé frapper à la porte de différentes administrations, dont l'administration fiscale, afin de leur demander différents codes sources. Alors, le code source, pour ceux qui l'ignorent, ce sont en fait les lignes de code qui composent en quelque sorte la mécanique d'un programme informatique. Et à l'époque, j'avais demandé l'ouverture du code source de la taxe d'habitation, qui a été ouvert en fin d'année dernière, et puis aussi celui de la taxe foncière, qui a donc été ouvert fin août, après tout de même un an et demi d'attente.
D'accord. Alors, je précise que ce que tu appelles la procédure CADA, hein, c'est une demande d'accès aux documents administratifs. Et CADA, ça veut dire que c'est la commission d'accès aux documents administratifs sur laquelle on peut se retourner quand un ministère refuse de vous communiquer des documents. Alors, donc, tu as, après donc, plus d'un an et demi d'attente, il y a eu la publication de ce code source. Et donc, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce code source ?
Alors, ce code source est composé de différents fichiers destinés au calcul de même différentes taxes qui, en fait, composent la taxe foncière et la taxe sur le bâti, la taxe sur les propriétés non bâties, mais aussi différentes taxes locales, comme par exemple la taxe sur les ordures ménagères. Enfin, après, c'est assez théorique parce qu'en pratique, il faut être quand même très doué en informatique pour lire et comprendre toutes ces lignes de code qui sont vraiment en langage informatique. J'en discutais d'ailleurs il y a peu avec un développeur chevronné qui me disait que même lui n'y comprenait pas grand-chose, pour ne pas dire d'ailleurs rien du tout, étant donné qu'il y avait en fait très peu de documentation qui expliquait comment fonctionnait le programme dans son ensemble. Après, ça ne veut pas dire que l'ouverture de ce code source ne servira à rien. Ça veut simplement dire qu'il va falloir encore beaucoup travailler pour que ça puisse être réutilisé à des fins potentiellement très différentes. Ça pourrait être développer des modèles de simulation, de réforme de la fiscalité locale, vérifier que le logiciel des impôts applique bien aussi les règles fiscales qui ont été fixées notamment par le législateur, etc.
D'accord. On précise que le langage, alors, c'est un langage COBOL, hein, c'est un langage qui existe depuis très nombreuses années, mais qui est encore très très utilisé. Beaucoup, par exemple, de transactions bancaires sont faites dans ce langage. Et je suppose que c'est peut-être l'absence de commentaires ou de documentation afférente au code qui fait que les personnes que tu as pu contacter disent qu'elles n'y comprennent pas grand-chose à ce code source.
Exactement.
Et donc, pour les personnes, on va dire, non spécialistes, qui voudraient y comprendre quelque chose, qu'est-il prévu par Bercy ?
Alors, Bercy a publié dans le même temps une notice, un document de quelques pages, en fait, qui explique grosso modo comment calculer la taxe foncière étape par étape. Alors, c'est un effort qui mérite d'être salué, mais qui ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme en lui-même. Et ce qui est très problématique, parce qu'en fait, la loi impose désormais aux administrations d'être transparentes en matière, justement, de fonctionnement d'algorithme. Depuis le vote de la fameuse loi numérique, en fait, les administrations doivent ouvrir leur code source, on l'a déjà dit, mais elles doivent aussi et surtout être capables d'expliquer aux citoyens comment ce fameux programme informatique qui s'est immiscé dans son dossier en est arrivé à prendre telle décision à son encontre. Très concrètement, ça veut dire que les impôts, les allocations familiales ou Pôle emploi, à partir du moment où ils prennent une décision individuelle, au moins en partie à l'aide d'un algorithme, ils doivent tout d'abord vous prévenir qu'un programme est venu s'immiscer dans votre dossier. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une petite ligne à la fin, par exemple, du courrier d'attribution de bourse scolaire, de votre avis d'impôt sur revenu, de votre affectation si vous êtes en cédant, qui doit vous signaler que, en fait, la décision vous concernant a été prise à l'aide d'un algorithme. Et la deuxième chose qui doit être intégrée, toujours à la fin du courrier qui vous est envoyé, c'est que vous avez le droit de connaître les règles de fonctionnement de l'algorithme. Et les textes là sont quand même extrêmement précis. L'administration doit vous expliquer à partir du moment vous faites la demande, c'est aussi quelque chose d'important, il faut qu'il y ait une demande de la part du citoyen. L'administration doit expliquer premièrement le degré de mode de contribution du traitement algorithmique. C'est-à-dire, en clair, que l'administration doit vous dire si l'algorithme il agit tout seul ou s'il y a un moment, il y a un humain qui intervient pour prendre la décision. L'administration, deuxièmement, doit vous préciser quelles sont les données traitées, leurs sources. Est-ce qu'on va chercher votre revenu fiscal pour calculer le montant de vos APL, par exemple? Troisièmement, on doit vous décrire les opérations effectuées par le traitement. Sur la taxe foncière, par exemple, on voit bien qu'il y a des valeurs locatives qui sont multipliées par des taux d'imposition, il peut y avoir différents dégrèvements, etc. Et enfin, et c'est probablement le plus important, c'est que l'administration doit expliquer les paramètres de traitement appliqués à la situation de l'intéressé. C'est-à-dire que l'administration doit vraiment vous fournir une explication qui est individualisée sur votre situation qui vous est propre. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour le citoyen qui ne sait pas du tout comment y calculer sa taxe d'habitation, son allocation au chômage, etc. Tout ceci est bien beau, mais le gros problème, c'est que ça fait 2 ans quasiment jour pour jour que cette obligation est entrée en vigueur, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Ça avait même été programmé depuis la loi numérique de 2016, il y a eu un décret en fait qui a fixé cette entrée en vigueur ultérieure. Ça veut dire que ça fait quasiment 3 ans que les administrations savent qu'elles doivent être transparentes, alors à la fois en prévenant les usagers qu'il y a eu un algorithme, mais ensuite en expliquant en cas de demande comment cet algorithme fonctionne. Le problème, c'est que difficile de trouver une administration qui respecte ses nouvelles obligations, ne serait-ce que la fameuse mention explicite, la fameuse petite ligne qui avertit qu'il y a un algorithme. Même ça, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai rien vu sur mon avis d'impôt sur le revenu il y a quelques temps, etc. Même la taxe d'habitation l'année dernière. Même mettre une toute petite ligne en fin de courrier, en 2 ans, on n'arrive pas à le faire. C'est quand même assez surprenant. Et certains parlementaires s'en étaient d'ailleurs alarmés l'année dernière. Et après moult échanges, assez tendus d'ailleurs avec le gouvernement, il a été décidé qu'en fait, faute d'avertir les citoyens qu'une décision a été prise alors sur le seul fondement d'un algorithme, ça concernera que les décisions 100% automatisées, et ben les décisions concernées seront automatiquement considérées comme nulles à partir du 1er juillet prochain, le 1er juillet 2020. Voilà, donc je pense que Bercy n'a qu'à bien se tenir en dépit de l'ouverture du code source de la taxe foncière.
Et donc cette nullité automatique à partir de juillet 2020, c'est quoi ? C'est dans la loi ou c'est simplement une annonce du gouvernement ? Qu'est-ce qui
fait ? C'est vraiment dans la loi.
C'est dans la loi, d'accord.
Ça a été introduit très exactement dans la loi sur les données personnelles du 21 juin 2018.
D'accord. Et ton sentiment par rapport à cette situation, par rapport aux administrations, est-ce que c'est un manque de volonté ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Est-ce que c'est un manque d'accompagnement peut-être par le gouvernement ou autre ? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment précises qui expliquent selon toi ce retard considérable ?
Alors je pense qu'il y a effectivement un manque de moyens et puis le fait qu'il n'y ait pas du tout de sanctions, ça n'aide pas, on va dire aussi, vu que les administrations ne risquent rien. Il ne risque rien, à part là bientôt une potentielle nullité, uniquement pour des décisions 100% automatisées. Je pense aussi que beaucoup d'administrations ne savent pas non plus exactement comment fonctionne leur système informatique. Et du coup, bah forcément, quand on ne sait pas, par exemple, sur... c'était avec la CAF, justement, il y a quelques temps, parce qu'on avait fait une demande CADA sur ça, et je crois qu'il y avait 17 000 règles de droit qui était dans le logiciel, je crois qu'il s'appelle Cristal, qui sert à calculer toutes les prestations versées par la CAF. Et du coup, si l'administration elle-même n'arrive pas à savoir comment le logiciel calcule les choses au regard de toutes les potentielles règles de droit ou etc. qui peuvent être appliquées, je peux comprendre que ce soit très difficile ensuite à expliquer aux citoyens individuellement comment le programme en arrivait à tel résultat. Le problème aussi avec tout ça, c'est que les administrations en face sont dans une situation de silence. C'est-à-dire qu'on a beau faire des demandes presse, on n'a jamais personne qui va nous répondre en nous disant on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué. Je pense qu'on pourrait complètement être apte à entendre ces arguments-là, que ce soit trop compliqué, mais personne ne les dit en face. Et au lieu de ça, on fait face à un mur. C'est-à-dire quand on fait une demande d'explicitation, il n'y a pas de réponse, ou alors sinon on donne une réponse qui est à côté des coûts de ce qui est prévu par la loi. Voilà, c'est un vrai problème.
Même toi, en tant que journaliste, tu n'arrives pas à obtenir une réponse des administrations que tu contactes, finalement.
Alors, j'arrive pas à avoir de réponse sur pourquoi ils ne le font pas.
Pourquoi ils ne le font pas, d'accord.
Après, j'ai eu tenté d'avoir des explications. Je sais que, par exemple, Pôle emploi, ou même plus récemment, il faut que c'est les Non, je ne veux pas dire. Je suis sûr, en tout cas, si les impôts, justement, pour le calcul de la taxe d'habitation, notamment, bah, il renvoie à la fameuse notice qui explique en fait comment est calculée la taxe d'habitation, maintenant la taxe foncière, étape par étape, sauf que ça ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme. Et même quand on leur explique ça, soit ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas entendre parce qu'ils ne répondent pas derrière aux remarques qu'on peut leur faire sur les lacunes de ces documents-là.
D'accord, bon. Et côté CADA, donc la commission, est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle accompagne ou est-ce qu'elle est surchargée de demandes et finalement, elle est comme les autres administrations?
La CADA a incité globalement les administrations à répondre à ces demandes d'explicitation, mais ça manque un peu d'allant, on va dire, dans les avis qui sont prononcés par la CADA. Et je pense que ça conforte les administrations dans ce manque de célérité à faire œuvre de transparence et de pédagogie, surtout sur le fonctionnement des algorithmes. Et voilà, c'est d'autant plus dommage qu'on avait Emmanuel Macron qui, l'année dernière, avait promis plus de transparence sur les algorithmes publics. Mais malheureusement, comme souvent lorsqu'il est question de transparence, les actes ne suivent pas toujours les discours.
D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en conclusion ?
Non, je pense qu'on a fait le tour, merci.
Bah écoutez, en tout cas, tu as écrit plusieurs articles sur le sujet, donc on les retrouve sur le site de nextimpact.com. Hein, donc c'était la chronique de Xavier Bern, et on se retrouve le mois prochain.
Oui, ça marche.
Je te souhaite une belle journée, au revoir. Alors, nous approchons de la fin de l'émission, l'occasion de quelques annonces. Puis d'abord la réponse au quiz, parce qu'on a répondu à l'une des questions, mais pas la première. La première question, c'était: quel projet libre a fêté ses 15 ans cet été, le 10 août? Et je vous avais indiqué que nous avions déjà parlé de ce projet dans Libre à vous. Eh bien, c'est OpenStreetMap, le projet de cartographie libre. Et je vous précise que nous consacrerons une deuxième émission à OpenStreetMap, donc le 24 septembre 2019. C'est le lendemain de leur réunion mondiale. Et donc Christian Kest viendra nous faire un petit point des nouveautés donc sur OpenStreetMap, donc l'émission du 24 septembre 2019. Alors dans les annonces d'événements donc autour de Paris, donc pour les personnes qui les écoutent en Île-de-France, il y a la soirée de contribution au libre jeudi 5 septembre 2019 à la FPH dans le 11e arrondissement. Ce samedi 7 septembre, vous avez le premier samedi au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie, donc notamment l'occasion de découvrir des distributions GNU Linux comme Ubuntu, mais aussi Debian et d'autres. Donc c'est de 14h à 18h à la Cité des sciences et de l'industrie. Le site web, c'est premier-samedi.org. Une formation qu'on m'a signalée donc, la semaine prochaine, donc du mardi 10 septembre au mercredi 11 septembre, donc au CICP, donc c'est rue Voltaire à Paris, c'est la formation Pratiquer GNU Linux au quotidien. Donc il y a 15 places disponibles, il y a des frais pédagogiques qui dépendent de votre statut. Alors évidemment, il y a d'autres événements ailleurs qu'en région parisienne. Donc, par exemple, il y a un apéro à prix le 6 septembre, donc ce vendredi à Marseille, au Foyer du Peuple. Donc je ne sais pas qui y sera présent, je crois que Christian Momont sera peut-être là, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, n'hésitez pas à passer voir les membres de l'April présents sur place. Et bien sûr, tous les autres événements sont disponibles sur le site de l'Agenda du Libre. Comme il me reste un petit peu de temps, c'est rare qu'on soit en avance. Je rappelle que la radio a une boîte vocale pour faire connaître votre travail, si vous avez envie de parler d'un projet important ou simplement de déclamer un poème ou d'un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez appeler le 01 88 32 54 54 33. Donc c'est le numéro de la boîte vocale de Radio Cause Commune. Je crois que la durée maximale des messages, si je me souviens bien, c'est une dizaine de minutes et... je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront diffusés à l'antenne, ça dépendra de l'équipe de la radio. Je regarde, est-ce qu'on a d'autres annonces? Si, je vais vous rappeler, dans les nouveautés, nous avons les chroniques courtes. Je vous rappelle la disponibilité de la bande-annonce vidéo qui est sur le site de l'April, april.org, que je mettrai également sur le site causecommune.fm. C'est un peu l'occasion de découvrir les visages. Vous verrez notamment sur la vidéo, le visage est... de ma collègue Isabella Vanni, de Noémie Berger, donc qui fera sa chronique la semaine prochaine. Vous avez aussi Denis Dordogne de l'April et de Infini. Vous avez Christian Momon de l'April. Vous avez Étienne Gonu. Donc là, j'ai un petit peu de découvrir. Bon, c'est une vidéo courte. Nous mettrons en ligne une vidéo un peu plus longue, peut-être 1 minute 30, 2 minutes bientôt. Et peut-être une version un peu plus longue encore, 5 minutes, pour vraiment montrer comment ça se passe ici. Parce qu'effectivement, les gens nous ont demandé, mais ouais, comment ça se passe derrière les micros, voilà, etc. Comment vous êtes habillés et tout. C'est un peu le mystère de la voix. Donc voilà, c'est la bande-annonce de l'émission Libre à vous et qui est donc disponible sur le site et que je vous encourage évidemment à voir et puis à transmettre très largement. Alors, notre émission se termine. Je vais remercier les personnes qui ont participé à l'émission. Donc, Luc, Xavier Berne de Next Impact, le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, aux manettes de la régie aujourd'hui, Patrick Creusot. Merci Patrick. Un grand merci également à l'équipe de la radio Cause Commune, que ce soit Olivier Grieco, Quentin Hernandez, etc., qui s'occupe notamment des locaux, qui nous prépare plein de choses, qui traite aussi les podcasts. Ah, j'avais oublié de parler des traitements des podcasts, mais ça sera pour la semaine prochaine. Donc vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Donc la prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 septembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants. Ce sera exceptionnellement une émission déjà enregistrée parce que l'une des intervenantes a repris l'école tout simplement ce mardi, donc elle n'était pas disponible. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 septembre et d'ici là, portez-vous bien.